Attention, moteur.
Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
Have you ever had a dream yet?
Une chaise longue et un étang avec des canards. C'est con les canards, mais ça fait cossu.
Play it once, Sam. For old time's sake.
Encore? Bah, pas les gars, un mois, c'était déjà la fin du mois.
Bonjour à tous, vous écoutez CinéZoom, l'émission qui vous parle cinéma. Bienvenue dans cette seconde émission hors série, puisque c'est la semaine de notre festival du film de Fontenay-le-Comte, qui, je le rappelle pour nos auditeurs, porte sur le thème de la cuisine, de la gastronomie et de la nourriture dans le cinéma. Ce festival se poursuit jusqu'au dimanche 24 mars. Alors hier, l'émission hors-série épisode 1 était animée par Rémi, notre directeur du festival, qui recevait Mathieu Jaja venu rendre hommage à Louis de Funès. Aujourd'hui, c'est moi qui anime l'émission avec Pierre, le président de notre association KinoZoom.
Bonjour.
Alors au programme aujourd'hui de cette émission très spéciale, nous avons l'honneur de tendre notre micro à l'un de nos invités phares du festival, Laurent Delmas. Nous allons profiter de la projection du film de Julien Duvivier, Voici le temps des assassins, pour tout simplement eh bien, parler cuisine et cinéma. Voilà, CinéZoom hors série numéro 2, c'est parti. Laurent Delmas, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais commencer par vous présenter, même si nos auditeurs vous connaissent certainement. Vous êtes critique de cinéma, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le cinéma. Et bien entendu, vous êtes journaliste, chroniqueur sur France Inter, et ce, depuis fort longtemps. Vous co-animez notamment une émission hebdomadaire de cinéma avec Christine Masson. Alors, bien, c'est On aura tout vu tous les samedis à 10h. Alors, vous avez une passion cachée, hein. Vous êtes aussi un fin gourmet. C'est la raison pour laquelle votre présence parmi nous nous semble être une évidence. Merci beaucoup, Laurent Delmas, d'avoir accepté notre invitation.
Mais merci de m'inviter, je suis ravie d'être là.
Alors, jeudi soir 21 mars est programmé le film, comme je le disais, le film de Julien Duvivier, Voici le temps des assassins. Je vous propose tout de suite, pour nous mettre dans l'ambiance, d'écouter la bande-annonce.
T'as encore failli être à l'heure, toi.
C'est la faute de Jourdain, patron. Il parle de vous.
Un grand chef.
Qu'est-ce que vous allez nous faire de bon?
Vous me faites confiance, comme d'habitude?
Non, ici, je ne commande jamais. Je préfère la surprise.
Patron, il y a une demoiselle, là, qui vous demande.
Qui c'est?
Je sais pas, elle m'a pas dit son nom. Je voudrais vous parler de Madame Châtelain, votre femme.
Ah, mon ancienne.
Vous êtes la fille de Gabriel? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a enterré il y a 6 jours.
Vous lui ressemblez pas, et pourtant quand je vous regarde, c'est elle que je vois. Même bouche, les mêmes yeux. Gérard Delacroix, mon meilleur copain.
Et on pourrait combiner quelque chose, sortir ensemble?
Pourquoi pas?
Alors comment la trouves-tu?
Je me sens pas à mon aise, elle me glace.
Moi je n'aime pas les jeunes gens. Ils
sont égoïstes et ingrats.
C'est pour lui que tu dis ça?
Non, pour lui comme les autres.
Oh.
Il ne m'intéresse pas. Je suis heureuse.
Seulement sa mère avait été comme elle, tiens.
Une belle garce, c'est qui t'en a fait voir?
Comment est-elle reçue?
Comme sa fille.
Il a de l'argent, alors.
Ça m'en a l'air.
Faut que tu l'épouses, il n'y a plus d'autre solution.
Je voulais marier la femme, mais c'est à peine si on se connaît.
J'ai été forcée de l'épouser.
Je vous crois pas.
Il est odieux avec moi.
Je croyais bien le connaître, pourtant.
Selon lui, tu m'as forcée à t'épouser.
Qu'est-ce que t'as encore dit, petit salaud, hein?
Tu m'aimes.
Tu le sais bien.
Tant qu'il sera vivant, il me poursuivra. Si je le quitte, il me tuera.
Alors Pierre, Voici le temps des assassins est programmé ce soir. C'est un temps fort du festival.
Bien oui, Françoise, parce que Voici le temps des assassins, c'est un film, un des films majeurs de Julien Duvivier. Je vous juste fais le pitch en quelques mots, juste pour vous mettre dans l'ambiance. Donc c'est Jean Gabin qui campe un restaurateur, André Châtelain, qui tient un restaurant dans le quartier des Halles, ça c'est important. Un jour, il voit débarquer dans son établissement une jeune femme, Catherine, dont le rôle est tenu par Daniel Delorme, qui est la fille de sa première épouse. Châtelain l'accueille, et c'est à partir de là, j'en dis pas plus, que le film s'amorce et que rien ne se passe comme on pouvait s'y attendre. Alors, Laurent Delmas, c'est un film dans lequel on passe beaucoup de temps, enfin, il y a la partie un peu intrigue, film noir, puis on passe aussi beaucoup de temps devant les fourneaux, derrière les fourneaux, dans l'ambiance du film, vraiment, qui est particulier.
Bien sûr. C'est un film double, c'est très étrange d'ailleurs, parce que il y a vraiment un côté clair et un côté sombre. Et le côté clair, c'est le côté des cuisines, c'est le côté du restaurant, c'est le côté des Halles, où là, tout est mouvement, force, joie de la gastronomie, des produits à profusion, on cuisine, on fait plaisir, on sert des plats, enfin... C'est vraiment la vie même dans ce restaurant, dans ce quartier, avec au milieu le roi Châtelain, joué par Gabin. Et si le film n'était que ça, il serait une sorte d'ode incroyable à la joie de vivre, et à la gastronomie, à la convivialité. Mais il y a à côté, les deux trains sont parallèles mais ils finissent par se croiser, le côté sombre, non pas de la force, mais du drame, avec une histoire d'une incroyable noirceur, effectivement, plus noir on peut difficilement, où là se mettent en branle la jalousie, le crime, la vengeance, enfin la drogue, il y a de la drogue, il y a du sexe, enfin il y a un nombre d'ingrédients sidérants qui sont exactement à rebours de ce qu'est le restaurant d'André Châtelain. Donc moi je trouve ça très très fascinant. Il n'y a pas forcément beaucoup d'exemples au fond de films où se côtoient à ce point le bien et le mal, le clair et le sombre, le yin et le yang. Enfin voilà, donc ça fait effectivement toute la force, la singularité et je crois la beauté qui continue de ce film, parce qu'on est fasciné par cette dualité.
Et Duvivier, il sait ce qu'il fait quand il fait ça. Je veux dire, par exemple, bon, Gabin, on sait, on le connaît, c'est un bon vivant, il aime ça. Je sais qu'on est aussi allé le chercher parce qu'on savait qu'un restaurateur, ça l'intéresserait, je crois. Et Duvivier aussi, où il s'est dit, je vais modeler mon scénario autour de Gabin, de ce qu'aime Gabin, et je vais en faire ce film, cette dualité dans le film.
Non, je crois que Duvivier est fasciné par cette dualité. Je rappelle que l'un de ses plus beaux films aussi, c'est La Belle Équipe, avec Jean Gabin, dont on dit faussement que c'est un film sur le Front populaire, mais c'est en tout cas vraiment un film sur une bande de copains qui gagnent une somme et qui l'investissent dans une guinguette en bord de Marne.
On a l'impression un petit peu qu'on la retrouve dans...
Mais la guinguette, on la retrouve, là c'est l'Agny, effectivement, on retrouve l'esprit de guinguette, mais alors justement, alors là, franchement, comme c'est du côté sombre de la force...
Subverti par le...
La guinguette de Voici le temps des assassins, on n'a pas du tout envie d'y aller, alors que la guinguette de La Belle Équipe, on a envie d'y passer des dimanches entiers. Mais il se trouve que ce film, La Belle Équipe, a une singularité, c'est qu'il a deux fins. Il a une fin heureuse et une fin malheureuse. Ce qui le ramène là aussi à l'histoire de la dualité. Duvivier était plutôt du côté de la fin triste, dramatique. Les producteurs l'ont persuadé qu'il fallait montrer au public la fin heureuse. Il l'a fait, ce qui prouve quand même qu'il pouvait le faire. Mais voyons en quoi, souvent, effectivement, il y a une forme de dualité dans l'œuvre de Duvivier.
Et alors la fin, moi, elle m'intéresse beaucoup, parce que... elle n'est même pas noire dans Voici le temps des assassins. Elle est horrifique. Enfin, c'est un truc incroyable. C'est hors champ. Enfin, on change de registre. Là.
On ne racontera pas.
On ne racontera pas, mais on est vraiment dans l'horreur.
Sinon, enfin, on va se faire agonir de
jeu. Mais je veux quand même en parler, parce que ça m'intrigue. Il y a un autre film aussi très fameux, c'est Les Diaboliques, qui est juste avant, qui a aussi une fin incroyable dans ce registre, pas gore, mais d'horreur. Ces deux fins là, ces films de 55 et 56, n'ont pas eu d'enfants dans le genre film noir.
Ça
aurait pu enfanter ou inspirer parce qu'on change de genre là.
Oui, moi je pense aussi, c'est presque un indice pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais je pense aussi à la fin des Yeux sans visage de Georges Franju, qui met en branle à peu près le même mordant. Allez, on arrête les indices. Il faudra aller voir les films, mais c'est une veine du cinéma français qui n'est pas effectivement une veine éminemment fréquentée. Mais peut-être après tout que ça donne quelques pépites comme ça. Moi, je préfère au fond voir de temps en temps cette veine-là, de temps en temps la veine drôle de drame, buffet froid, coup de torchon, des choses comme ça, c'est-à-dire des choses absolument où l'absurde règne en maître, voilà. Mais effectivement,
Que ça en fasse un genre qui arrive.
Sans que ça en fasse un système, ça reste des pépites singulières. Et c'est ça, moi, j'adore dans les films que vous avez cité, dans le Franju, dans le Duvivier, c'est-à-dire cette explosion, tout
une espèce de fulgurance qui arrive.
De fulgurance, ça, absolument, dans le paysage. La météo se déchaîne à ce moment-là. Peut-être après les choses reprennent-elles leur cours plus sagement, mais au moins il y a eu ce moment-là et qui est un moment très fort.
Et alors je reviens sur le côté plus clair du film. Donc se déroule sous nos yeux cette ambiance, vous l'avez dit là, qui est incroyable. Et donc c'est une reconstitution en studio, je crois
des Halles. Il y a quelques vues globales des Halles, parce qu'on ne pouvait pas reconstituer quand même les pavillons Baltar et autres en studio, mais globalement c'est un film de studio
réussite dans le formidable. Rendu formidable.
Oui. Sauf, pardonnez-moi, je vous coupe, excusez-moi, mais les extérieurs sont quand même, par exemple, dans la guinguette, les bords de Marne sont en extérieur, ce qui singularise un peu Duvivier, parce que Duvivier, c'est donc un réalisateur d'avant la nouvelle vague proprement dite, et on caractérise en général la vieille vague en disant ce sont des films de studio. C'est jamais si simple que ça, la réalité, de même qu'il n'y aura pas de vérité si simple que ça pour la nouvelle vague, c'est bien, mais en tous les cas, là, Duvivier aimait bien aller en extérieur, et ça lui plaisait. Et là, dans Voici le temps des assassins, il le fait au moins pour ses scènes de guinguette. Oui,
d'accord. Et alors là, c'est juste pour rebondir sur ce côté-là. Il y a un autre film que je voudrais évoquer où on a aussi une ambiance. Alors, c'est pas une ambiance de restaurant, mais je me tourne vers toi, Françoise. C'est plus une ambiance de bistrot, mais qui a des gènes communs sur cette partie claire, avec Voici le temps des assassins.
Alors oui, effectivement, il s'agit d'un film de 1947 de Jean Jaurès et de Henri Decoin. Ce film nous immerge dans un bistrot qui vit sous nos yeux. Un café, j'annonce le titre d'emblée là, parce que c'est un film que j'aime beaucoup particulièrement. C'est le Café du Cadran, dont voici un extrait.
Bonjour patron.
Bonjour Gilles.
Salut.
Salut Chauvin. Belle journée qui s'annonce, hein.
Ah oui.
Ah, monsieur Biscara, vous êtes tombé du lit?
Non, seulement du fauteuil où j'ai dormi un peu à la rédaction en attendant le premier métro. Mon café au lait, Jules.
Ben quoi, Jules, vous dormez encore? Monsieur Biscara vous demande un café au lait ou lui servez un apéritif?
Mais non, ça va très bien.
Allez, Jules, changez-moi ça tout de suite.
Mais patron, c'est ce que monsieur Biscara appelle son café au lait.
Attends, comment? Vous pouvez comme ça le matin à 5h?
À mon âge, on ne supporte plus les mélanges. Alors, j'aime mieux ne plus changer.
Et ça vous fait pas mal?
Oh, j'ai bien le foie qui pèse un peu sur la cuisse, mais on s'y fait.
Bien, on est en 1947, on a reconnu la voix de Bernard Blier. Bon, c'est un film savoureux, ça.
C'est une merveille. Ce film est une merveille. C'est vraiment une perle à mes yeux, enfin, à mes oreilles aussi, d'ailleurs. On vient de l'entendre. Il faut dire à nos auditeurs qu'il n'est pas très facilement visible, mais au moins il existe chez un éditeur vidéo qui s'appelle René Château, qui se consacrait, il vient de disparaître, à la mémoire du cinéma français, c'est-à-dire effectivement à mettre en valeur ces films un peu oubliés. Celui-là l'est, alors qu'il est d'une incroyable qualité à la fois esthétique, narrative. Il y aurait un livre à écrire sur les bistrots dans le cinéma français. Hein, c'est une constante incroyable. Et là, donc, Blier arrive dans... Il prend la tête d'un bistrot parisien près, je crois, dans le quartier de l'Opéra.
Dans le scénario, c'est en face du Café de Paris.
Voilà.
On joue beaucoup avec cette dualité.
Voilà, cette dualité-là, une sorte de rivalité. Mmh. Bon, c'est un établissement beaucoup moins prestigieux que le Café de Paris, mais il y a néanmoins des journalistes qui viennent, on a entendu. Il y a des musiciens qui viennent. Il est donc patron de ce bistrot, sachant que C'est dans un tout autre film que Robert d'Alban, dans un film qui s'appelle Un idiot à Paris, a presque définitivement balisé la profession de bistrot dans le cinéma français. D'Alban dit « Je suis patron de bistrot, ancien combattant et socialiste, c'est dire si des conneries j'en ai entendu dans ma vie. » Voilà, ça c'est le vertébrant pour moi sur l'histoire du bistrot dans le cinéma français. Alors, Blier pourrait dire « Je suis patron de bistrot », on ne sait pas quelles sont ses opinions politiques, on ne sait pas s'il a fait la guerre, mais ce qu'il pourrait dire, c'est « je vais être cocu ». Et ça, c'est un des vertèbres aussi du film, oui. Et d'en faire cette vision. C'est un personnage que Bertrand Blier, dans sa carrière, a plusieurs fois, hélas pour lui, éprouvé. Il semblerait qu'il ait une figure de cocu. Ça n'appartient qu'au réalisateur de l'avoir stigmatisé ainsi. Mais non, c'est un film très sensible, parce que c'est un film qui... il n'y a pas un scénario délirant, c'est un film qui est presque en huis clos dans ce lieu-là, justement, mais qui est d'une incroyable, je dirais, précision sur la description de ce lieu, sur comment un lieu peut être le personnage principal d'un film. Et c'est vraiment le cas, avec ses entrées, ses sorties, ses gens différents, la nuit, le jour, le petit matin, les petits déjeuners. Et ce qui est très beau aussi, c'est que Blier découvre avec nous le métier, ou presque. C'est-à-dire que là, il vient de se passer un truc, c'est que il y a un habitué qui est rentré, qui a demandé son café du matin, et en fait son café du matin c'est de l'alcool. Bon, et Blier ne le sait pas, il s'en étonne auprès de son...
C'est délicieux quand même.
C'est absolument délicieux, ça met Blier à notre portée, enfin on est à peu près dans le même niveau d'information que lui, et donc ça, on entre dans ce café tout au long du film, et c'est vraiment un parcours formidable. Je saurais trop conseiller à vos auditeurs de voir le film de Decoin.
Aujourd'hui on le voit avec ces yeux-là. À l'époque, parce qu'aujourd'hui, il a cette espèce de charme des bistrots qui ne sont plus. À l'époque, il n'avait pas ce charme-là. La narration, aujourd'hui, se bonifie avec le temps, clairement. Et à l'époque, le film arrivait à se passer d'une narration plus soutenue que il y a un côté théâtre, un peu. Enfin, on est dans un décor, et puis on évolue dans le décor. Mais aujourd'hui, c'est extraordinaire, ça revit sous nos yeux. À l'époque, c'était pas ça.
C'est vrai, il y a un côté maintenant nostalgique, exotique. À l'époque, c'était presque documentaire. Et je pense que les gens aussi, parce que le bistrot a perdu à Paris, et ailleurs, a perdu de sa force. On va moins au bistrot dans cette fréquentation-là, de consommation-là.
90% des bistrots ont disparu
en France. Donc c'est une culture qui s'est perdue. Au moment où le film sort, c'est une culture encore en majesté. Mmh. Donc en fait, les gens, certainement, avaient un peu le sourire aux lèvres de se voir sur écran. C'est-à-dire que Blier, c'était le patron du bistrot d'à côté de chez eux. Voilà, à qui il arrive en plus une mésaventure, etc. Bon, on ne dira pas plus, mais donc je pense qu'il y avait effectivement un grand, grand rapport de proximité avec ce film à l'époque.
Et oui. Et par contre, vous avez dit tout à l'heure, c'est une constante dans le cinéma français, on pourrait faire un livre ou des livres sur les bistrots au cinéma. Mmh. Alors, est-ce que ça périclite quand même, cette affaire-là, puisque le bistrot, ce mode de vie, disparaît, je ne sais pas, mais ça menuise terriblement. Est-ce que le cinéma, parce que là, comme ça, je cherche à haute voix, là, je réfléchis à haute voix, je ne sais pas s'il y a des films qui sont comme ça, axés sur un lieu, ce lieu-là, depuis quelques années maintenant.
Sauter,
il y en a beaucoup.
Sauter, il y en a énormément. Un film de Sauter sans qu'il y ait un bistrot. Restaurant, bistrot, mais bistrot aussi, vraiment. Il y a quand même des choses. Par exemple, moi, il y a un très très joli film de Sylvie Vered qui s'appelle Stella, où bizarrement, c'est Biolay qui joue le rôle du patron de bistrot, et Carole Rocher, son épouse. Et le film se déroule vraiment dans le bistrot. C'est l'histoire d'une petite fille, la Stella du titre, mais ses parents sont patrons de bistrot, et il y a un décalage entre ce qu'elle vit à l'école et ce qu'elle vit dans ce bistrot très populaire, est, je crois, du côté de la Place d'Ali ou quelque chose comme ça, dans le 11e. Il y a quand même de temps en temps des incursions, mais c'est vrai que c'est un lieu qui est moins important, je pense, dans la vie quotidienne des gens, donc du coup qui prend moins d'importance
dans le
cinéma. C'est assez logique. Le restaurant reste dans le cinéma français quand même, alors le restaurant proprement dit, c'est-à-dire l'endroit où on mange, un bistrot, on mange pas forcément dans un bistrot, on peut manger, mais c'est pas le lieu principal. Le restaurant, en revanche, reste, je crois, vraiment l'un des, je sais pas, peut-être 10-15 lieux les plus fréquentés par le cinéma français.
Oui, et aussi je rebondis, vous parliez de Bernard Blier, les gens pouvaient se voir. C'est un Bernard Blier aussi qu'on a un peu oublié. Enfin, on a beaucoup l'image de Raoul, hein, des tontons flingueurs, mais Blier a une carrière considérable avant, et il a un côté ordinaire, enfin, bonhomme ordinaire, extraordinaire,
oui.
qui est très loin de cette image de Audiard, quoi. Enfin,
tout à fait. Oui, oui, ça n'est pas que... Blier, ça n'est pas qu'une machine à parler Audiard, qui est une très très belle machine, hein, qui a été une des plus belles,
certainement, machines. Très bien huilée.
Ouais. Très très bien huilée. La voix, le côté grasseillant parisien de Blier s'accordait parfaitement à la Kalachnikov de Audiard, mais effectivement il y a eu une carrière, y compris avant, où au fond c'est souvent un jeune homme timide, un peu disgracieux, hein, voilà, un peu rond, un peu bon et maladroit, etc. Donc il y a des rôles comme ça où c'est moins, je dirais que c'est moins assuré, voilà. C'est une carrière qui prend son envol, mais sur des rôles plus tendres aussi, un peu plus comme ça, comme celui du Café du Cadran, par exemple.
Et avec quelques rôles déjà extraordinaires, mais dont on oublie un peu le personnage.
C'est vrai, c'est vrai.
Bien, merci. Alors, je propose qu'on prenne un petit peu de recul maintenant. Alors, Pierre, je vais te laisser lancer le sujet. Je propose qu'on évoque le lien qu'il pourrait y avoir, peut-être, alors à vous de voir, entre la gastronomie et la cinéphilie. Voilà, alors Pierre, je te donne la parole d'abord.
Oh ben c'est juste parce qu'on évoque là des films assez savoureux en restauration ou en bistrot, et je me dis, est-ce qu'on peut filer la métaphore, et est-ce qu'on peut dire que, c'est une hypothèse, hein, est-ce que le cinéphile est au cinéma ce que le gourmet est à la nourriture ?
Bien sûr, je pense, oui, oui. Je pense que c'est assez proche. Si on fonde en tous les cas les choses sur... Moi, je pense que c'est un curieux attelage de quantité et de qualité. C'est-à-dire que pour faire vraiment des cinéphiles et des gourmets, il faut que les gens en question multiplient les expériences. C'est-à-dire multiplient les films vus et multiplient les plats goûtés.
Mais il n'y a pas de contradiction entre la quantité et la qualité.
Eh ben non, c'est-à-dire que ben oui, il faut impérativement les deux, parce que si vous goûtez peu de plats et si vous voyez peu de films, votre goût ne s'aiguise pas, votre goût n'arrive pas.
Le palais ne se forme pas.
Le palais ne se forme pas. Donc c'est ça qui est très très étrange, c'est que on a parfois l'impression, souvent, d'opposer alors c'est pas de la gloutonnerie, la fréquentation, mais disons le nombre, et puis la qualité. Moi, je pense que effectivement, et alors ça éclate dans la figure du critique. Le critique de cinéma comme le critique gastronomique, c'est quelqu'un qui, par définition, va beaucoup plus au restaurant que la moyenne des gens, va beaucoup plus au cinéma que la moyenne des gens, et qui, de ce fait, je ne dis pas que c'est mécanique, mais il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'effectivement, on devient plus acéré.
Je vous coupe, il va dans tous les restaurants Parce qu'il y a quand même, c'est difficile d'en parler, mais il y a des restaurants qui sont plus industriels, voilà, et puis il y a des restaurants gastronomiques.
Oui,
vous voyez ce que je veux dire.
Je vois très bien. Disons qu'une fois qu'on a fréquenté une ou deux fois un de ces restaurants industriels, dont
Jean Trikatel
Rochefort. Trikatel, voilà, où Jean Rochefort disait que c'était plus des plomberies que des restaurants. Une fois qu'on les a fréquentés deux ou trois fois, on sait ce que ça donne. Mais non, il y a une réflexion très intéressante justement de François-Régis Gaudry récemment, qui disait que on est en train de perdre, et forcément il y a un mouvement qui est en train de le retrouver, mais le restaurant entre deux, c'est-à-dire entre le très gastronomique et le très banal, en France...
Les films du milieu, alors, si on revient sur la métaphore.
Exactement. Le critique gastronomique, le critique de cinéma doit impérativement voir les films du milieu, d'ailleurs pour en parler, pour les valoriser, parce que c'est peut-être ceux qui ont parfois le plus de difficultés à exister, et le critique gastronomique, il est bien fondé à aller voir les restaurants du milieu, pour filer la métaphore, parce que peut-être que ceux-là, il n'y a pas un grand chef à la tête, il n'y a pas des innovations extraordinaires, ça reste...
Mais il y a quelqu'un en cuisine quand même.
Mais il y a quelqu'un en cuisine, il y a un budget, alors le problème n'est pas le même au cinéma, mais il y a un budget qui est moindre, qui permet de manger bien, mais sans se ruiner. Donc ça, par exemple, pour le critique gastronomique, je trouve que c'est l'un de ses rôles. Bien sûr que de dire que Guy Savoy, c'est formidable, que Les Trois Gros, c'est génial, D'accord, très bien, parfait. Et de dire que si c'est moins bien, il faut le dire aussi. Bon, voilà. Mais la découverte de petites adresses, entre guillemets, je ne sais pas, au fin fond de la Lozère ou...
ou de la Vendée,
ou de
par
la
exemple.
Vendée, je n'osais vous le dire, à ce micro. Donc, c'est important aussi, c'est très important. Moi, je ne sais pas du tout, ça a l'air immodeste de le dire, mais je suis revenu un jour de vacances, j'étais dans l'Hérault, et j'ai très, 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 mais vraiment très, 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 très bien mangé dans un restaurant qui était à Octon, qui doit avoir 300 habitants près de Lodève dans l'Hérault. Je l'ai dit, j'en ai parlé à François-Régis Gaudry, je l'ai appelé, j'ai dit, tu sais, là vraiment, j'ai très très bien mangé. Et il y est retourné, il est allé lui une dizaine de jours après, et il a pu dire tout le bien qu'il pensait de cette adresse, parce que mais c'était très important, c'est-à-dire, et à partir de ce moment-là, eh bien, le restaurant n'a pas désempli pendant des mois et des mois.
Le pouvoir de résonance
de François-Régis Gaudry pour les restaurants est incroyable. Donc, voilà, c'est le critique sert à ça. Le critique, c'est celui qui peut-être entend la note juste. Voilà.
Et si je reviens sur le cinéma, les films du milieu, qui sont donc entre le... Je vais un peu fort dans la polarité, mais enfin, entre le blockbuster ou la machine industrielle et puis le film d'auteur, est-ce qu'il y en a toujours autant? J'ai cette impression que le cinéma se polarise comme ça, que le cinéma ne fait plus consensus et qu'on a de moins en moins de films du milieu. C'est une impression,
c'est un peu compliqué. C'est ce que disait assez justement, à mon sens, Justine Triet, quand elle a reçu la Palme d'Or à Cannes. Ses propos ont fait inutilement polémique, parce que je crois qu'ils étaient descriptifs. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire attention au bon financement de ce milieu-là, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est un réservoir d'auteurs intéressants, de vrais talents, et qui ont effectivement en tête qu'on peut s'adresser au plus grand nombre et faire des films de qualité. Je crois que l'Anatomie d'une chute, de ce point de vue-là, est l'exemple assez parfait.
C'est un exemple de film du milieu.
C'est un exemple du film du milieu, c'est une production indépendante, il n'y a pas d'hyperstar, c'est pas un coup délirant, mais il y a un vrai travail, il y a 6 mois de montage, 10 mois de montage, je crois, enfin, vraiment une véritable implication, et au final, un film qui est en train de remporter à peu près une centaine de récompenses à travers le monde.
Succès considérable.
Palme d'Or, Oscar, etc. Donc succès considérable. Mais il faut faire attention à ce que, en France, on préserve ce modèle-là. C'est un modèle, hein, parce qu'on sait, on l'oublie parfois un peu trop, que le financement du cinéma français est fondé sur le fait que quand nous allons au cinéma, quand on achète un ticket de cinéma, quel que soit le film qu'on va voir, français ou étranger, blockbuster, pas blockbuster, tout ce qu'on voudra, il y a un pourcentage, un petit pourcentage, mais réel, du prix du ticket qui va abonder l'organisme public qui s'occupe du cinéma, qui s'appelle le CNC, et cet argent sera redistribué dans l'aide à la production.
C'est unique au monde, ça ?
C'est plus unique au monde, parce qu'il y a certains petits malins, ils ont bien eu raison, qui sont aperçus que c'est un très bon système. Et la Corée du Sud, par exemple, dont on apprécie hautement le cinéma, a importé ce système. Israël a importé ce système. D'autres pays l'ont fait. C'est un système Robin des Bois. Hein. On prend l'argent là où il est, puis on le donne aux plus pauvres, entre guillemets.
Oui, oui.
Bon, donc c'est un système très malin. Il faut arrêter de dire que le cinéma français est financé par l'argent public. C'est pas de l'argent public, c'est l'argent du public.
Des spectateurs.
C'est pas tout à fait pareil. Et ce trésor-là, c'est pour moi un trésor national, comme on dit au Japon. C'est-à-dire qu'il faut impérativement préserver ça. C'est ce qui fait la singularité, la spécificité et mécaniquement, je dirais, la qualité. Parce qu'une fois de plus, là aussi, on en revient à notre quantité-qualité. Il y a une vieille interrogation que je trouve totalement idiote, qui est de dire, mais est-ce qu'on ne produit pas trop de films en France ? C'est une interrogation qui n'a pas lieu d'être, parce que qui va décider que tel film doit être produit et pas d'autres ?
Lesquels sont en trop ? Si on pose la question,
lesquels sont en trop ? Ça n'a pas de sens. Un film, c'est un prototype. On le sait bien. C'est-à-dire que le jour de sa sortie en salle, le moule est cassé et on ne pourra pas le refaire. Si on pouvait le refaire, il y a belle lurette que des producteurs qui pensent plutôt argent que art referaient le même film 25 fois, ils gagneraient la même somme à chaque fois.
Les Américains nous font des séries quand même, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
Oui, mais en général, la règle, c'est 1, ça marche très très bien, 2, deux, il y a une petite décote et ça finit.
Il les emmène loin quand même.
Au fond du trou. Oui, il y a une façon.
Grosse machine là.
Il y a une façon d'essorer le presser le citron.
Creuser le filon jusqu'au bout.
Absolument. Alors ça marche plus ou moins, mais honnêtement, et on sait bien sur quel ressort ça fonctionne. On est tous en train nous d'aimer des choses un peu doudou comme ça qu'on aime revoir. Bon, mais il y a un moment où on est moins dupe. Il y a un moment où la qualité ne marche plus. Donc très franchement, ce système. Il faut le préserver, il faut le chérir, il faut l'encourager et faire en sorte que ça perdure. Ça et l'implantation des salles en France. Si vous me permettez ce long diverticule, mais c'est un de mes chevaux de bataille. Il y a quelque temps, le Centre national du cinéma, auquel on faisait allusion tout à l'heure, avait publié une carte de France. Et sur cette carte de France, chaque salle de cinéma était un point rouge. Or, la France a la rougeole de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la France est rouge de petits points, à l'exception d'un noyau central, massif central oblige, où là, effectivement, le nombre de salles est un peu moins, voire inexistant. Le reste du territoire est couvert par des salles de cinéma.
Ça aussi, c'est extraordinaire.
C'est absolument unique au monde. Ouais. Il y a des villes de moins de 10 000 habitants en France qui ont un cinéma. Ça ne se voit nulle part ailleurs, et certainement pas à New York, et certainement pas
Ce maillage est en danger
Non, parce qu'il a par exemple résisté à ce qui pouvait faire craindre un tsunami qui était le Covid, et aucune salle française de cinéma n'a fermé. La seule chose qui s'est passée pendant le Covid, c'est que les salles qui devaient naître à ce moment-là, les travaux ont été gelés. Et les salles ont ouvert après le Covid. C'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé par ailleurs dans le monde entier, et notamment aux États-Unis, où après le Covid, des salles ont fermé, n'ont pas rouvert. Voilà.
C'est ça qui s'est passé. Ils ont tenu le choc, quoi.
Nous, on a tenu le choc, et très très bien, et il faut vraiment s'en féliciter. Mais comme d'habitude, comme tous les trésors nationaux, il faut veiller à son entretien, il faut faire en sorte qu'effectivement les choses puissent continuer comme ça.
Mais sur ce que vous dites, ça permet de revenir par ce qu'on disait au début. La France, c'est le pays de la gastronomie, c'est aussi le pays du cinéma, absolument.
Bien sûr. Mais c'est pas pour rien que le cinéma est né à Lyon.
Enfin, bien entendu.
Bien sûr, il n'y a pas de hasard. Mais évidemment, il n'y a pas
s'explique.
De hasard. Je me permets à cette table et pour ce beau festival de rappeler quand même que le cinématographe des Frères Lumière, il est né en 1895. Alors, il existait un tout petit peu avant déjà, il y avait eu déjà des projections, mais première projection publique, 1895, près de l'Opéra, il y a 10 petits films, et parmi ces 10 petits films, il y en a un qui s'appelle Le déjeuner de bébé. C'est-à-dire que le cinéma est né en partie avec un film qui parlait déjà de nourriture. Et c'est un film moi qui me fait rire à chaque fois, parce que c'est un des deux couples Lumière, je ne sais jamais lequel exactement, avec donc Monsieur Lumière, Madame Lumière et leur bébé. Donc ça s'appelle Le déjeuner de...
Une espèce de home movie avant l'heure.
Oui, alors c'est une sorte d'autofiction de la famille Lumière, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en fait, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais manifestement la table n'a pas été tout à fait dressée pour le bébé, parce qu'il y a au moins une bouteille d'Armagnac. Donc c'était une façon de rappeler...
On se croirait dans le Café du Canon.
Oui, exactement, c'est une façon de rappeler qu'il n'y a pas que le bébé qui déjeune, et qu'on est bien à Lyon, et qu'on ne va pas se contenter de lait, mais qu'il y aura aussi des substances un peu plus fortes.
Bah écoutez, merci beaucoup.
Oui, merci à vous.
Pour toutes ces dérives.
Oui, pardon.
Non, mais je vous en prie, c'est avec plaisir.
Alors, oui, merci. Merci Laurent Delmas. Pour le plaisir, je vous propose de clore cette émission avec la bande originale de l'un de nos films incontournables programmés durant la semaine du festival. Mais je ne vous dis pas lequel, vu que c'était l'objet de notre quiz musical de notre troisième Cinézoom. Alors, si vous l'avez reconnu, vous, les auditeurs, n'hésitez pas à contacter Dig Radio. Il y a des places de cinéma à gagner.
je reviens sur des un peu des choses que vous disiez.
Merveilleux ce qu'on vient d'écouter.
Ah oui, c'est un plaisir.
On dira pas ce que c'est.
C'est un plaisir de gourmet. C'est un plaisir de fin gourmet. Alors justement, vous parliez des critiques qui se doivent de goûter à tout. Et ben moi, je vous demande pour le spectateur de l'aider. Comment devient-on un fin gourmet au cinéma? On commence comment? On fait quoi? Que fait-on? On commence par tout en haut, tout en bas, beaucoup, varié. Dites-moi. Dites-nous.
On commence par ses envies, parce que je crois vraiment que le premier principe, c'est l'envie. D'ailleurs, quand on interroge les spectateurs, le CNC le fait régulièrement, le Centre National du Cinéma demande régulièrement aux spectateurs qu'est-ce qui vous donne l'envie d'aller au cinéma. C'est un casse-tête d'ailleurs pour la profession, parce que multiplicité de réponses possibles. La presse, la publicité, la communication, le bouche à oreille, les articles, tout ça. Et en fait, la raison qui vient très très loin devant, c'est l'envie. Ce qui met la profession en difficulté, parce que l'envie, franchement, comment
c'est l'envie de retrouver des choses déjà vues, vous disiez tout à l'heure.
L'envie, ça peut être tout. Et l'envie, c'est complètement immatériel. C'est gazeux, c'est nébuleux, c'est très individuel en plus. J'ai envie, j'ai pas envie. Et une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, parce que c'est manifestement ça qui conduit dans la salle de cinéma. Mais on n'a rien dit de tangible, en tous les cas, de ce sur quoi on pourrait éventuellement s'appuyer. Bon, et c'est tant mieux que ça reste dans cette ambiguïté-là. Et moi, je crois, quand on a envie de, sans jeu de mots, de s'intéresser au cinéma, enfin, quand on a un appétit, voilà, on peut filer longtemps les métaphores culinaires, hein, quand on a un appétit de cinéma, il faut laisser l'envie vous envahir et l'envie de voir tel film, etc. Ça ne doit pas être une contrainte. Si ça devient une contrainte, alors ça peut être une contrainte après, quand on se professionnalise et que si on écrit un livre sur Ozu, bien sûr qu'il va falloir voir tous les films d'Ozu. Bon, d'accord, ça me semble la base. Bon, mais dans un premier temps, enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu ma cinéphilie comme ça. J'avais des envies, et puis parfois, j'avais pas d'envie d'aller voir un film, et je l'ai pas vu. Peut-être que je l'ai regretté, et je l'ai souvent regretté, des années plus tard, en voyant un film, et en me disant, ah ben ça, vraiment, j'avais pas eu envie. C'est un chef-d'œuvre. Mais c'est le temps du cinéma, il est très important aussi. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé qu'on n'aime pas les mêmes films toute sa vie. Il y a des moments, parce qu'on grandit, parce qu'on devient plus mature, parce qu'on aime, parce que ses parents meurent, etc. Enfin, il y a tas de...
Bien sûr, la vie avance, quoi.
La vie avance, et on comprend des films, on reçoit certains films qu'on n'avait pas compris, qu'on n'avait pas vu, qu'on avait déprécié. Et à contrario aussi, on encense des films quand on est adolescent, et il ne faut pas les revoir.
Des espèces de fétiches.
Surtout ne les revoyez pas, hein, parce que franchement, c'est catastrophique la plupart du temps.
Et il n'y a pas néanmoins cette tendance ou ce risque d'avoir envie de voir un peu toujours la même chose, parce qu'il y a aussi cette espèce d'habitude de pli-pris, comme on commande toujours le même plat dans le restaurant qu'on connaît. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, de retourner au cinéma pour voir la dérivée de ce qu'on connaît déjà. Quoi.
Alors là, je pense que pour le coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur la critique, les critiques astronomique de cinéma, je pense qu'il y a, c'est comme ça, plus de curiosité. C'est-à-dire que ce
il faut être curieux.
Oui, il faut être impérativement curieux.
Il faut aller voir ailleurs, il faut fureter.
Ah oui. Pour moi, impérativement, c'est-à-dire que d'ailleurs, mon métier consiste à regarder ce qu'on appelle des cartons de presse, c'est-à-dire là où on dit tel film sera projeté à tel endroit à 5 ou 6 reprises 2 mois avant sa sortie. Venez le voir pour en parler ensuite dans votre émission. Je note sur mon agenda, c'est marqué projection ou projo, je suis de plus en plus feignant, une heure et un lieu. Je ne marque rien d'autre. Je ne marque pas le titre du film, je ne marque pas le nom du réalisateur, je ne marque rien d'autre pour éviter tout préconçu. Une fois que j'ai décidé que ce film rentrait dans mon calendrier, mais
c'est juste
une organisation, je vais le voir le plus vierge possible et avec l'esprit de curiosité. Parce que ce qui était très étonnant en France, c'est qu'effectivement, on peut voir de 10 à 15 films nouveaux par semaine. Ça veut dire que dans la même semaine, on pourra voir bien sûr des films français, bien évidemment des films américains, des films européens, mais aussi un film jordanien, un film turc, un film sri-lankais, un film de Corée du Sud.
Ce qui reste unique au monde aussi.
Absolument unique au monde. Et là, pour le coup, si on n'est pas curieux, il faut faire un autre métier. Mais c'est pas méprisant ce que je dis. Hein. Mais si on n'est pas curieux de savoir ce que peut donner un film fait avec quelques bouts de ficelle en Afrique noire, ben il faut pas, faut changer de métier parce que
faut faire autre chose. Faut s'éloigner de soi-même, faut aller à l'horizon de soi-même. Hein, comme
voilà.
On disait.
Ouais.
Deleuze.
Très bien, bien. Merci beaucoup Laurent Delmas. Ben,
merci à tous les deux.
Merci, vraiment. Merci beaucoup.
Merci.
Merci Pierre.
Merci à vous.
Alors bien entendu, le festival se poursuit jusqu'à dimanche, dimanche 24 mars, avec des films, des rencontres. Toutes les informations sur le festival sont à retrouver sur www.festivalfilmfontenay.com. Nous nous retrouvons très bientôt pour une autre émission spéciale durant le festival. Merci à tous nos auditeurs, toujours plus nombreux, de nous suivre. À très vite au cinéma et sur les ondes de Digue Radio.
Elle était bien celle-là.
Toute la journée, vous écoutez Digue Radio sur digradio.fr.